Es ist 5 Uhr, ihr hört Pi Radio auf 88,4 MHz in Berlin, 90,7 in Potsdam und das geht weiter mit Radio Sterni auf Französisch heute.
88,4 Pi Radio.
Schwache laufen. Das ist aber komisch. Pi Radio. Zack, zack.
Guten Morgen, wir haben Freitag, es ist Radio Sterni und heute auf Französisch, deswegen das ist ja die einzige Ansage auf Deutsch. Salut, on est vendredi, c'est Radio Sterni, la numéro 67 aujourd'hui. Aujourd'hui une émission en français avec notre invité régulier, Seb. Seb le nomade, Seb le voyageur, qui va nous dire bonjour dès que j'aurai mis son micro. Ah bah, je crois que ton micro il marche pas, tu veux pas prendre le 6 plutôt parce que là il est barré le 5. Il est juste à côté là, tu peux le traîner.
Alors bonjour tout le monde, hola todos y todas.
Ok, alors aujourd'hui on va faire une émission un petit peu sur tes dernières pèlerinations. Oh j'ai réussi à dire le mot, pèlerination, c'est juste hein. Je fais un scrabble avec ça moi. Et c'était en Amérique du Sud. Tu veux dire un petit peu pourquoi, comment, et ensuite on met une petite musique pour se mettre dans l'ambiance chaleureuse.
Allez, alors effectivement, donc l'Amérique du Sud, j'y ai voyagé deux fois ces deux dernières années. Et j'y suis allé il y a deux ans une première fois, et j'avais pris une année sabbatique, une longue année sabbatique de 14 mois. Et ce qui m'a permis de faire beaucoup de choses, mais entre autres de passer 5 mois en Amérique latine. Et voilà, aujourd'hui, je voulais consacrer l'émission à la présentation de quelques pays que j'ai traversés et faire un petit point un peu culturel, politique et autres.
Ok. Et pour nous mettre en jambes, tu nous as choisi un petit morceau de musique, c'est quoi ?
Alors, je vous ai choisi un superbe morceau de musique commerciale, puisque Radio Sterni est quand même très habitué à la musique, à la soupe commerciale. Et c'est un morceau. Alors pourquoi je l'ai choisi ? Durant mes 5 mois d'Amérique latine, j'ai entendu ce morceau, on va dire, de 1 à 5 fois par jour. Il passait sur toutes les radios. Et voilà, à la fin, la mélodie entre dans la tête, comme on dit en allemand, un Ohrwurm. Il n'y a pas de traduction en français. Voilà, on se l'écoute.
Ok. Eh ben, d'abord, j'ouvre ma bière, parce que là-bas, il fait chaud. Certainement. En tout cas, plus qu'ici.
Me dijeron que te está casando. Tú no sabes lo que estoy sufriendo. Esto te lo tengo que decir. Cuéntame. Tu despedida para mí fue dura. Cena que te llevo a la luna. Y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando. Esto me está matando. Oh no. Te estaba buscando por la calle gritando. Como un loco tomando. Es que yo sentí tus
ser feliz, esto no me gusta. Esto no me gusta. Es que yo sin ti y tú sin mí. Dime quién puede ser feliz, esto no me gusta. Eso no me gusta.
Yo sin ti no aguanto más. Por eso vengo a decirte lo que siento. Estoy sufriendo en la soledad. Sin ti y tú sin mí, dime quién pueda ser feliz. Esto no me gusta, esto no me gusta.
Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta. Oh, yeah.
Oh. Dicen que uno no sabe lo que quiere hasta que lo pierde, pero vale la pena luchar por lo que uno quiere.
Alors, c'était quoi ce petit morceau, toi qui étais en train de danser sur la table?
Ouais, j'étais pris par la fin de la chanson. Alors, bah c'est, on va dire que c'est le thème récurrent de la soupe populaire, le chagrin d'amour. Donc voilà, il crie à travers les rues. Je te cherchais dans les rues, je criais comme un fou.
Voilà. Et il parle d'une
comme
personne.
Un fou qui comme un fou qui boit, comme un fou alcoolique.
Alcoolique. Voilà. Il parle pas d'une bouteille qu'il a perdue.
Non, il parle de probablement sa copine. Voilà.
Et ça, tu l'as entendu dans quel pays alors?
Tous les pays d'Amérique latine. Voilà. Donc j'ai atterri en Argentine, ça passait sur les radios et ça m'a suivi jusqu'en Colombie. Voilà. Et une à quatre fois par jour.
Et donc, ton voyage, tu as commencé en Argentine, mais je crois que tu veux commencer par parler d'un autre pays.
Non, mais on va commencer par l'Argentine.
Allez, soyons fous.
Voilà.
Tché, tché, tché.
Alors, l'Argentine, j'ai atterri à Buenos Aires, bien sûr. Alors, quand j'ai atterri, j'en avais un peu marre des villes, j'en avais un peu marre de l'Europe aussi, je voulais un certain dépaysement, donc c'est pas une ville dans laquelle je suis resté très longtemps. Par contre, bon, je l'ai trouvé assez sympa. Alors, j'ai vu qu'une petite partie, puisque Buenos Aires c'est quand même une mégalopole très très grande. Et voilà, les quartiers sympas que j'ai vus, ils avaient un petit côté un peu berlinois, j'ai trouvé, avec aussi des alors pas les mêmes, pas les Sterni.
Des Spetti, des Donner.
non, mais sur son côté un peu alternatif. Et voilà, avec certains quartiers un peu alternatifs et d'autres qui sont un peu plus bobos, type Prenzlauerberg, où on se trouve maintenant. Et avec un peu les mêmes thématiques, les thématiques de gentrification, choses comme ça. Quoi. Quelques jours après, je suis parti en woofing. Et le woofing, c'est un bénévolat dans les fermes biologiques. Et je suis parti carrément à l'autre côté du pays, du côté de Mendoza. Et je suis parti en stop. Voilà. Alors je suis parti à 2h30 de Buenos Aires parce que sortir de la mégalopole est quand même très, très dur. Et après, j'étais pris en gros par deux camionneurs. Et en fait, j'ai commencé mon voyage comme ça en traversant la Pampa. Alors la Pampa, c'est un paysage totalement plat et très très monotone. Alors il y a de l'agriculture qui se fait, du soja, de la viande, choses comme ça. Mais globalement, on a l'horizon à perte de vue. Et ça, je l'ai eu pendant 8 à 12 heures de manière totalement monotone. Il n'y a aucun relief. Et je dois dire que c'est une expérience assez impressionnante puisque je n'ai jamais eu l'habitude comme ça en voiture d'avoir un paysage aussi monotone. Alors j'ai atterri dans une ferme qui avait été conseillée par une amie et dans laquelle il faisait principalement du jus de pomme, mais aussi du jus de coing, des choses comme ça. Donc je me suis retrouvé à la fois à récolter des pommes, mais aussi à faire du jus et à s'occuper du potager. Alors quand je dis faire du jus, c'est tout ce qui est aussi embouteillage, stérilisation, des choses comme ça. Sur cette place, il y avait pas mal de Français aussi. Je vais les retrouver assez souvent dans les chantiers participatifs et autres woofing. Et la ferme avait été fondée par un couple alors qui maintenant était assez âgé, il devait avoir 65-70 ans. Et en fait, ils se sont toujours refusés à mettre des produits chimiques, à investir dans des machines très coûteuses et ont voulu chercher à rester autonomes le plus possible. Et ce qu'on peut voir après des années, c'est vraiment que ça a payé. Aujourd'hui, ils ont des enfants qui ont 35-40 ans, qui travaillent aussi dans la ferme. Hein. Donc là, il y avait un noyau dur de 6 personnes, les enfants et leur mari ou copain. Et la fille argentine était mariée à un Français. Et c'est un des principaux lieux où ils font une agroécologie au niveau des jus de pommes en Argentine. Voilà, et on a passé très bon temps. Et voilà, il y a une petite anecdote, je me rappellerai un peu toujours de la femme, la grand-mère en fait, qui était très remontée contre la société de consommation, choses comme ça, quoi. Et voilà, et donc on parlait de la crise en Argentine, et là, c'est elle qui part en crise et qui nous dit « Non, mais la crise, moi je te dis, il n'y a jamais eu de crise. Il n'y a jamais eu de crise en Argentine. Regarde ici, on avait des arbres en abondance. Moi, j'ai tout connu. J'ai connu la crise, j'ai connu la dictature, j'ai connu la soi-disant démocratie. Et ici, on n'a vraiment jamais connu, on n'a jamais rien manqué. On a toujours été pauvres, mais on n'a jamais manqué de rien. » Ça, c'est une phrase qui m'est restée. Elle m'a dit « Regarde la terre, elle a toujours donné en abondance. Regarde les arbres, ils ont toujours donné beaucoup de fruits. Les gens défilent, ils ont faim, mais qu'ils viennent ici récolter leur nourriture. Moi, je vais te dire, moi, de quoi ils ont faim. Ils ont faim de soda, ils ont faim de nourriture artificielle. Et tout ça, c'est la faute du sucre blanc. Le sucre blanc, c'est ce qui ramollit le cerveau. » Voilà. Et on va conclure là-dessus en s'écoutant un petit morceau espagnol. Un petit morceau argentin, pardon.
Qui s'appelle
Le premier, pas celui qui est Mirkan.
Los Juegas la noche sin ti letra. Voilà. C'est ça, t'as vu? Comme je parle tout bien espagnol.
Perfect.
Et bon, on s'écoute ça.
Vuelve a despertar la lluvia en mí, derramando toda su raíz sobre el papel. Vuelven a caer sobre la piel del que va esperando por nacer. Estás aquí. Mientras tanto busco las palabras que me cubran esta herida, que me alejen más de ti. Y la soledad me va creciendo con la niebla de este invierno que no puedo resistir. La noche sin ti. La mañana se levanta ya, no hay señales de que volverás, no estás aquí. Solamente quiero comprender que tu ausencia vive en mi pared y sin querer.
llenar este vacío que me crece desde adentro, que no me deja seguir. ¿Cómo asimilar todos los huecos que aparecen en mi cama y se quedarán ahí? Se apaga la luz.
L'Argentine, tu peux nous dire un petit peu
l'Argentine.
Ça ressemble.
Alors ça ressemble à beaucoup de choses, l'Argentine, puisque c'est un pays qui est très très grand, avec une variété de paysages, de climats qui est très 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 diversifié. Alors moi j'ai vu qu'une petite partie de l'Argentine et c'est un pays qui, je pense, enfin, quasiment un continent à lui entier, quoi. Alors, ce petit morceau qui m'avait été conseillé par Cécilia est un morceau de folklore argentin. C'est le mot qu'ils utilisent, folklore. Et voilà, je l'ai un peu mis pour en hommage à tous les guitaristes argentins que j'ai croisés dans absolument tous les pays d'Amérique latine. Ça veut dire que dans toutes les auberges de jeunesse un minimum alternatif, il y a toujours un Argentin pour nous jouer sa guitare et son folklore. Voilà. Alors l'Argentine, comme on est sur Radio Sterni, on va quand même parler un peu de politique.
Ah, je croyais de bière, mais...
Alors de bière argentine, ils sont plutôt connus pour le vin, en fait. L'Argentine, il y a des très très bons vins, justement dans la région de Mendoza, où moi j'ai fait du jus de pomme, mais l'Argentine est très réputée pour le vin. L'Argentine, alors on va la faire courte. C'est un pays qui a eu son indépendance en 1810 de la couronne espagnole et qui a connu quasiment que l'instabilité politique. Bon, avec évidemment des périodes d'accalmie. Au XIXe siècle, là, il y a toute une campagne qui s'est faite contre les Amérindiens, les natifs d'Argentine. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, la population argentine n'est est quasiment que des descendants d'Européens. Alors, il y a quelques personnes qui sont mixtes, métisses, mais globalement, à contrario des pays dont je vais parler tout à l'heure, comme la Bolivie, la population est quasiment que de souche européenne. Et l'Argentine, il y a une période qui l'a traumatisée, c'est la période 1976-1983. Puisqu'en 1976, en fait, dans les années 70, il y avait des affrontements importants entre toute la gauche révolutionnaire et l'extrême droite. Et en 1976, il y a un coup d'État militaire et qui part un peu dans une répression anti-communiste, mais en fait anti-tout ce qui n'est pas d'accord avec la dictature. Avec toute une période de guerre sale où il y a ce qu'on appelle les escadrons de la mort, des personnes qui sont des exécutions sommaires d'opposants politiques, des tortures, des disparitions. Donc on estime à 30 000 le nombre de disparus, 15 000 personnes qui ont été fusillées, 9 000 prisonniers politiques et quand même plus d'1,5 million de personnes qui se sont exilées pour un pays qui en comptait 30 millions. Parler de ça, ça me fait pas spécialement plaisir, mais en fait, c'est quelque chose qui est ressorti assez souvent quand je discutais avec des Argentins. C'est-à-dire que je me retrouvais sur la plage avec des hippies argentins, et forcément, à un moment, il y avait deux choses dont ils me parlaient. Soit la guerre des Malouines, soit la période de dictature, et très souvent, il y en a qui m'ont dit « Ah bah oui, moi j'ai perdu un oncle, j'ai perdu un père, un grand-père, pendant cette période de dictature », et c'est quelque chose qui les a quand même durablement marqués. Justement, la guerre des Malouines, en fait, c'est une guerre qui s'est faite contre le Royaume-Uni, qui a fortement affaibli le régime militaire, et en 1983, il y a la fin de la dictature militaire, et le retour à ce qu'on appellerait une démocratie. Mais dans les années 90 à 2000, ce qu'on appelle démocratie, c'est une démocratie libérale, avec un ensemble de privatisation de secteurs de l'économie. Alors, il faut savoir que sur le plan humain, la dictature est vraiment une horreur, hein, ça c'est totalement évident. Mais sur le plan économique, il y avait plutôt des bonnes choses d'un point de vue économique, apparemment. Et en fait, toutes les périodes 1990-2000, c'est une libéralisation de l'économie. Et notamment le FMI qui prête beaucoup d'argent pour le développement de l'Argentine, ce qui fonctionne dans un premier temps avec un accroissement du PIB, même si les inégalités se creusent, globalement il y a un meilleur niveau de vie qui se fait. Mais en 2001, alors ça les trentenaires s'en rappellent peut-être, il y a la crise, une crise majeure en Argentine, voilà. Et où effectivement les gens sortaient dans la rue et tapaient sur des casseroles. Et avec notamment des critiques très importantes qui se sont faites au niveau de l'OMC, du FMI, des institutions mondiales. Et les anciens militants ATTAC doivent très certainement s'en rappeler. Et ça a donné un gouvernement de centre-gauche. Avec des politiques de renégociation de la dette et surtout un protectionnisme. Et ça, c'est assez intéressant puisque l'Argentine, en fait, s'est lancée vraiment dans une politique d'industrialisation nationale où ils essaient de produire, des tentes de camping, enfin, des scies circulaires. Enfin, je dis n'importe quoi qui me passe par la tête, mais d'éviter justement les importations chinoises et en mettant des barrières assez importantes. Et ce qui fait que les produits sont quand même chers, ils sont plus chers qu'en Europe, mais ils sont produits sur place, quoi. Voilà. Alors moi, quand j'étais, la présidente s'appelait Cristina, ils l'appelaient par son prénom, voilà, et qui était pareil, centre-gauche. Et aujourd'hui, depuis 2005, ils se sont retapés un homme d'affaires de droite qui est impliqué un peu dans les Panama Papers, voilà. Voilà, l'Argentine, donc c'est un pays qui est à la fois riche, mais à la fois qui connaît aussi une forte inégalité économique. Et pour nous en parler, rien de tel qu'une rappeuse française.
Mais qui donc ? C'est pas moi qui ai choisi la chanson.
Allez.
Moi c'est Victoria, né il y a 14 printemps dans un village près de Salta dans lequel je vivais avant. Cela fait maintenant plus de 10 ans qu'avec papa et maman, mes frères et mes sœurs, on a quitté nos champs. On est venu s'entasser dans une de ces cabanes à l'entrée de la ville. C'est papa qui l'a construite mais elle est pas finie. Je n'ai que des vagues souvenirs du village. Maman pleure quand elle m'en parle car elle n'aime pas la vie ici. Des étrangers ont brûlé nos maisons pour nous voler nos terres. Papa s'énerve, moi je comprends pas, il parle d'agroalimentaire. Il dit que les politiques sont des prédateurs qui sèment la peur et qui ont un estomac la place du cœur. Ici pas de travail, aucune prière ne s'exauce. Après les cours avec ma sœur, on vend des bracelets de pesos. Mais malgré tous ces efforts, demeure ces jours sans repas. La nuit maman pleure, la nuit maman ne dort pas.
No llores, hija mía. Yo no perdí las esperanzas. Estos malditos dictadores jamás podrán destruir la lucha de los pueblos que no pueden olvidar.
Mon voisin m'a dit pendant la dictature c'était plus dur. Alors je vais pas me plaindre même si ici y a pas de futur. Moi j'aime bien les études, on m'a dit c'est bien mais inutile. Ici beaucoup ont arrêté avant même de savoir écrire. Dans mon jardin secret je cultive le rêve d'être médecin, soigner tous ces enfants malades qui ne mangent pas à leur faim. Je comprends pas, dans la ville je vois bien tous ces petits faire la manche devant le mépris de ceux qu'on appelle les gens bien. Je m'interroge, ne voient-ils pas la misère? Ils nous écrasent pour bénir l'homme venant de l'autre hémisphère. Papa dit qu'on est traités comme des chiens. Dieu merci, j'ai ma famille. Plus loin, y'a des orphelins qui vivent dans les décharges. Des fois, je pleure en cachette, mais pas longtemps, car je pense à mes aînés qui ont connu le chant des mitraillettes. Et puis grand-mère disait toujours, la vie c'est l'espoir. Si t'y en as plus, t'es comme mort et vivre lève de l'exploit.
No llores, hija mía. Yo no perdí las esperanzas. Estos malditos dictadores jamás podrán destruir la lucha de los pueblos que no pueden olvidar a sus desaparecidos.
Il a frôlé la folie quand un matin il a appris que la banque lui avait volé ses économies. Impuissant, tout le monde était affolé. Il n'était pas le seul, c'est la nation entière qui s'était fait voler. Depuis ce jour, avec beaucoup de gens de la ville, ils bloquent les routes pour bloquer l'économie du pays. C'est leur façon de se faire entendre. Mais moi j'ai peur quand ils s'en vont, il y en a qui reviennent pas. La police est violente, ils les appellent piqueteros et les journaux sont des menteurs. Ils disent que c'est des bandits. Après, il y a des gens qui ont peur, papa dit. Ils peuvent tuer des hommes, mais ils ne tueront pas la mémoire. Les mères des disparus chantent toujours contre l'oubli. On vit le fruit d'une démocratie ratée dans un pays si riche, sans d'enfants n'ont dans le ventre qu'une tasse de maté, parce qu'on est dirigé par la mafia du crime. Moi je comprends pas et quand je demande pourquoi, on me répond toujours parce qu'on est en Argentine.
La pobreza no es deshonra si se vive con dignidad. Piqueteros, cartoneros, en la lucha de los pueblos, en memoria de Marco Guevara, Zapata, juntos hasta la victoria. Juntos hasta la victoria. Juntos hasta la victoria. Juntos hasta la victoria.
Vous avez écouté Kenny Arcana, alors vous êtes sur Radio Sterni, naturellement. Radiosterni.qsdf.org, si vous voulez regarder nos archives, piradio.de pour laisser des commentaires, ou bien radio@qsdf.org. Et on est toujours avec Seb, qui va changer de pays, donc on vient de quitter l'Argentine dans son voyage pour aller vers la Bolivie.
La Bolivie, tout à fait. Alors... Pour les auditeurs qui n'ont pas forcément la carte de l'Amérique latine en tête, ce qui était effectivement mon cas, la Bolivie, c'est au nord-ouest de l'Argentine, donc il y a l'Argentine, juste à l'ouest de l'Argentine, il y a le Chili, où je ne suis pas allé, et la Bolivie se trouve au nord-ouest de l'Argentine. Alors la Bolivie, dès qu'on entre, on sait qu'on a changé de pays, ce qui n'est pas le cas quand on change de Bolivie à Pérou. Puisque là, comme je disais tout à l'heure, les Argentins sont plutôt de souche européenne et les Boliviens, par contre, eux, sont davantage des natifs de la région. Alors avec beaucoup de métis, en fait, avec beaucoup de métis espagnols. Mais ça se voit en fait au niveau de leur faciès, donc avec une peau beaucoup plus sombre. Ils sont plus petits aussi. Pour la première fois, je me suis senti dans la norme, voire grand. Ils sont plus petits. Et puis au niveau de l'habillement, c'est des habits qui sont très différents, très colorés. Avec pour les femmes des robes plissées qui sont toutes les couleurs, en fait ça dépend un peu des régions. Les hommes aussi ont des habits très colorés, et c'est pas rare non plus de voir des hommes porter du rose, et ça ne signifie pas que ce sont des queer berlinois. mais c'est quelque chose de normal là-bas. Et au niveau des langues maternelles aussi, l'espagnol est parlé par quasiment toute la population, mais les langues d'usage sont pour beaucoup le quechua et l'aymara, qui sont deux langues qui sont évidemment très différentes de l'espagnol. Et au niveau de la nourriture aussi, qui est différente. La Bolivie, c'est un pays qui est où il y a des hauts plateaux, c'est ce qu'on appelle l'altiplano, et qui est une culture qui est particulièrement intéressante à découvrir pour nous Européens, puisque effectivement, c'est un mixte un peu entre des cultures qui ont été importées par les Espagnols et des cultures locales. Et notamment, c'est quelque chose qui se voit au niveau de la religion. Ça veut dire que en Bolivie, il y a beaucoup de défilés, il y a beaucoup de danses pour célébrer des fêtes, et avec des masques colorés, des défilés avec des hommes et des femmes qui peuvent être déguisés, alors plein de choses différentes, hein. Par exemple des monstres ou qui portent des masques qui ressemblent vraiment à un carnaval en fait. Et par contre, comme les Espagnols avaient interdit les divinités anciennes, ils les ont substituées à des divinités chrétiennes. Et par exemple, je suis allé sur une île qui s'appelle Isla del Sol, et je suis tombé tout à fait par hasard sur des danses, et les femmes avaient des sortes de couronnes qui ressemblaient aux rayons du soleil, avaient des robes dorées. Et les hommes avaient des chapeaux carrés ou des choses comme ça. Et donc je me dis, ah bah tiens, ça doit être une cérémonie pour le dieu soleil ou je sais pas quoi. Et il y avait marqué fête de Saint-Antoine de Padoue. Voilà. Voilà, c'est ce qu'on appelle en fait quelque chose de syncrétique. Donc un mélange en fait, un mélange entre les différentes cultures.
Je peux t'interrompre une seconde Parce que tu dis, l'Argentine c'était aussi colonisé par les Espagnols, la Bolivie aussi, c'était pas au même moment, ou bien pourquoi il y a une différence, tu sais?
Alors, déjà au niveau du relief, alors effectivement, la Bolivie a été colonisée, mais en fait il y a un gars qui s'appelle Simón Bolívar, et qui a... monter un peu les Indiens contre le colonisateur espagnol, et en fait la population a eu son indépendance avant qu'ils se fassent massacrer en fait. Disons qu'en Bolivie c'était plus stratégique en fait de les mettre en esclavage plutôt que de les exterminer, et aussi il y a une question géographique qui fait que maintenant avec les routes ça se voit moins, mais à l'époque pour passer tous les pour passer l'école, des choses comme ça, c'était assez compliqué. Voilà, c'est ma théorie. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir en Bolivie ? Alors, on peut voir plein de choses. Déjà, il y a des paysages qui sont magnifiques. Le Salar d'Uyuni, c'est un énorme désert de sel qui, une partie de l'année, est recouvert par les eaux. Et en fait, en séchant, il y a donc une couche de sel sur laquelle on marche et sur laquelle il y a plein de camions qui roulent. Et en fait, ça fait une sorte de pavage en hexagone. Donc ça ressemble un peu à plus ou moins des sortes d'alvéoles d'abeilles, et qui se fait de manière naturelle. Voilà, puisque l'hexagone est une optimisation au niveau du séchage. Et ça fait ces formes assez particulières. Voilà, et j'ai passé 3 jours sur place, et c'est un des endroits où passe le Paris-Dakar aussi, puisque le Paris-Dakar ne passe plus en Afrique, mais en Amérique du Sud maintenant. Ensuite, je suis resté un peu dans une ville qui s'appelle Potosi. Alors, ce nom vous dit peut-être pas quelque chose, mais en fait, au XVIIe siècle, c'était une ville qui était très connue en Europe, puisqu'il y avait une énorme mine d'argent. Et les Espagnols avaient mis en esclavage la population locale pour extraire les minerais d'argent et les rapporter en Europe pour faire, pour faire des bijoux, pour faire de la monnaie, choses comme ça, quoi. Et ça a été la deuxième ville la plus peuplée de l'Amérique jusqu'au XVIIe siècle. Je suis passé à Santa Cruz de la Sierra, c'est une ville qui est connue pour ses positions très conservatrices, avec une bourgeoisie capitaliste, elle se nomme comme ça. Hein. Et ce qui est intéressant en Bolivie, c'est que justement, il y a toute la branche de Santa Cruz qui déteste un peu toute la population campagnarde, et les deux se font un peu la guerre, se font vraiment la guerre des fois. Je suis passé à Cochabamba, qui est une ville de taille moyenne, on va dire, pour l'Amérique du Sud. Et en fait, tout à fait par hasard, je suis passé à une ville limitrophe qui s'appelle Quillacollo, et dans lequel il y a eu j'ai assisté de manière spontanée. Enfin, c'était prévu, mais moi, j'étais pas du tout au courant, et j'ai vu un des principaux défilés du pays. Et voilà, de manière totalement spontanée. Et je propose justement qu'on écoute quelques extraits de ce défilé.
Alors, ça, c'est toi qui l'as enregistré, ce morceau ?
Alors, j'ai fait des enregistrements. Malheureusement, je ne les ai pas toujours avec moi. Et effectivement, j'ai dû rechercher des enregistrements qui ont été faits, mais c'est la même fête et la même année. Voilà. Et malheureusement, il ne vient pas de moi.
Tu viens à Berlin, rendre visite à Radio Sterni et tu n'amènes pas tes enregistrements.
Et je n'amène pas mes enregistrements d'Amérique du Sud. Je sais.
Tu seras puni ce soir.
Je serai puni.
Alors en Bolivie, qu'est-ce que tu as vu d'autre ?
Alors en Bolivie, j'ai vu d'autres choses effectivement. Donc La Paz, qui est la capitale politique, et globalement j'ai assez peu aimé les villes d'Amérique du Sud puisque elles sont très bordéliques, très polluées, assez agressives parfois. Mais je dirais que c'est pas forcément le cas de La Paz. Enfin En tout cas, je ne l'ai pas ressenti autant que dans certaines grandes villes, notamment brésiliennes. Et c'est une capitale qui est très haute. C'est la capitale la plus haute du monde, d'ailleurs. Et dans laquelle aussi, on retrouve pas mal d'artistes et avec un mélange qui se fait entre... qui se fait entre des artistes locaux et qui peuvent avoir été inspirés par l'Europe. Parce que les Boliviens, du fait de l'histoire, en fait, sont quand même très distants des Européens. C'est vrai que j'ai rencontré... Moi, c'est un pays qui m'a beaucoup plu, mais j'ai rencontré plusieurs voyageurs qui quand même se sont plaints un peu qui ressentait les gens comme un peu hostiles, en tout cas pas très avenants pour discuter avec eux. Et moi, je ne l'ai pas ressenti, mais je comprends que eux l'aient vu comme ça. Et à la page, j'ai l'impression qu'il y a un bon mix qui se fait. Alors, une des discussions qui s'est fait beaucoup avec les Boliviens, c'est qu'ils ont une plante sacrée. Et cette plante sacrée est très mal connue en Europe. Alors, c'est un petit arbuste qui pousse de manière naturelle dans la montagne. Et cet arbuste, c'est la coca. Et la coca, tous les Boliviens en consomment. Quand je dis tous, c'est vraiment tous.
À partir de quel âge ?
Alors, à partir de quel âge ? Je sais pas, à partir du biberon. Alors, ça dépend sous quelle forme, puisqu'il y a deux formes dans lesquelles ils le consomment. Donc, c'est avec en formant des petites boules de feuilles, et ils le chiquent. Donc, on voit très fréquemment, en fait, des gens qui sont en train de mâchouiller quelque chose, et on sait que c'est des boules de coca. Et ils le prennent aussi en tisane. Et en fait, il y en a partout. Ça veut dire que quand on va dans un hôtel, à la fin, il y a toujours des petits thés en sachet, il y a toujours de la coca. Alors, c'est une plante qui est médicinale, qui est consommée depuis 5000 ans dans la région, et qui a des vertus notamment pour aider au niveau de la digestion ou pour le mal des montagnes aussi, puisque en fait en Bolivie on se retrouve souvent à haute altitude et il y a des personnes qui ressentent le mal des montagnes et ça aide à surmonter le mal des montagnes. Et voilà, c'est des petites feuilles qui ressemblent un peu à du laurier sauce, qui sont un peu plus petites. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé avec la coca ? Alors, de base, c'était une plante qui était sacrée dans la religion, dans les religions natives. Notamment, c'est la fille de Pachamama, la terre-mère. Et en fait, il y a des Européens qui ont commencé à s'intéresser à cette plante pour ses vertus médicinales. Et au milieu du 19e siècle, il y a des chimistes qui arrivent à isoler un principe actif qui fait la mauvaise réputation de la coca dans le monde, et c'est la cocaïne. Et oui. Et la cocaïne, en fait, il y a une histoire qui est mal connue, c'est que la recherche qui avait été faite était pour des applications médicales. Et à la fin du 19e siècle, on l'utilise pour des maladies respiratoires, pour des anesthésies locales, notamment en ophtalmologie, et aussi pour soigner l'addiction aux opiacés. Voilà.
Et voilà comment on a sorti des millions de personnes de l'héroïne.
À l'époque, c'était pas l'héroïne, c'était l'opium. Mais effectivement, c'est issu de la même plante, hein, le pavot. Et en fait, à l'époque, l'extrait de coca est utilisé en Europe à des fins médicales. Et peu à peu, en fait, il entre aussi dans l'alimentation. Ça veut dire qu'il y a un des aliments phares de la fin du 19e, qui s'appelle le vin Mariani, qui est un Bordeaux avec de la coca. Et aux États-Unis, il y a une fameuse boisson qui est encore très présente et qui s'appelle le
Coca-Cola.
Le Coca-Cola, exactement. Et le Coca-Cola, en fait, jusqu'en 1929, contient de la cocaïne dans ses boissons.
Il n'y en a plus ?
Et il n'y en a plus. Alors, ils ont transformé ça par de l'aspartame. Ça rend les gens tout autant dépendants. Ou le sucre blanc, puisque en plus, ça ramollit le cerveau. Et en fait, bon, qu'est-ce qui se passe avec la cocaïne ? Elle aurait pu rester une plante médicinale au même titre que la morphine ou des choses comme ça. Mais en fait, on se rend compte qu'il y a des effets délétères qui sont importants. Et qu'il y a aussi une dépendance assez rapide qui se crée. Et globalement, dans les années 30, la cocaïne commence à disparaître peu à peu. Et en 1960, il y a une conférence de l'ONU qui l'interdit totalement. Et ce n'est pas sans poser des problèmes pour les personnes, des Amérindiens, qui la consomment de manière traditionnelle depuis 5000 ans. Et qu'est-ce qui se passe entre les années 70 et 90? Et il y a une explosion de la consommation de cocaïne dans les pays occidentaux. Alors, les pays occidentaux ne consomment absolument aucune feuille de coca. Hein. Et mais la population, elle, en consomme. Et sauf que pour fournir une demande, eh ben, les cultures augmentent. Et non pas non plus pour les populations locales, pour Kalchik, mais pour fabriquer de la poudre blanche pour les Occidentaux. Et ça, ça a des conséquences politiques très importantes. Ça veut dire que, comme la culture devient interdite, c'est le crime organisé qui récupère le commerce, avec des formations de cartels ou de gangs qui sont assez violents, une corruption aussi généralisée dans les pays concernés, Bolivie, Pérou, Équateur, Colombie. Et voilà. Et avec, quand je dis déstabilisation politique, ça va jusqu'au coup d'État ou à des formations de groupes armés. Voilà. Et donc qu'est-ce qui se passe, c'est que les États-Unis s'engagent aussi dans une politique de war on drug, et pour lequel ils envoient des avions militaires pour bombarder à coups de désherbants chimiques les champs de coca. Et ça provoque des exodes ruraux, avec des gens qui s'entassent un peu dans les favelas. Et en fait, après 20-30 ans, l'ONU a officiellement déclaré, c'était il y a 4-5 ans, que ça avait été un échec total sur le point de vue de la consommation, puisqu'ils ont eu beau déverser des tonnes et des tonnes de produits chimiques, ça n'a jamais eu d'influence manifeste sur la consommation des Européens. Alors pourquoi je parle de ça? Puisque les Boliviens m'en ont beaucoup parlé. Et j'avais l'impression, en fait, presque chaque fois que je discutais avec un Bolivien, un moment, il devenait militant de la coca en disant « Mais regardez, la coca, c'est pas la cocaïne. » Et ils ont raison, puisque dans une feuille de coca, c'est 1,5%. Donc, effectivement, la consommation qui en est faite, n'est pas du tout nous ce qu'on connaît en Europe. Et alors là, le war on drug c'est un peu calmé, mais là il y a eu des États qui sont déstabilisés politiquement et pour de très longues années, et notamment non seulement les pays producteurs mais tous les pays en fait qui se trouvent entre les pays producteurs et les États-Unis qui sont le débouché. Et notamment toutes les formations de gangs, ce qu'on appelle des maras, au Mexique ou dans tous les pays d'Amérique centrale, alors c'est pas leur seule source d'argent illégal, mais c'est une source majeure de leurs bénéfices, quoi. Alors pour finir sur une note positive quand même, c'est que les pays producteurs commencent maintenant un peu à lever le pied sur les destructions de champs. Et pour donner quand même l'idée de l'importance de ce sujet, c'est que le président bolivien, enfin l'ancien président bolivien qui s'appelle Evo Morales, a été élu et un de ses thèmes principaux de campagne était l'autorisation de la coca sur certaines zones du territoire. Alors certaines zones du territoire parce qu'il y a quand même une pression aussi des États-Unis et de l'Europe, quoi. Voilà, je propose qu'on s'écoute un petit morceau bolivien.
Qui s'appelle Cordilleras.
Cordilleras.
Thank you.
Alors, après la Bolivie, on écoute toujours le morceau en arrière-plan, t'es allé au Pérou.
Voilà, au Pérou, et ce morceau fait une magnifique transition, puisque la une culture musicale qui est assez similaire en fait entre les deux pays. La flûte de Pan est associée au Pérou, mais en fait on la trouve beaucoup en Bolivie aussi. Alors le Pérou, il est très intéressant pour tout son passé au niveau des cultures précolombiennes. Et une des premières que j'ai rencontrées, c'est la culture Tiwanaku. Et Tiwanaku, c'est une civilisation pré-Inca qui s'est formée autour du fameux lac Titicaca.
Que tous les écoliers français connaissent, n'est-ce pas ?
Exactement, puisqu'il y a caca dedans. La culture Tiwanaku, après, a laissé place aux Incas, puisque les Incas les ont dominés. Hein, les Incas ont... je commence à bafouiller, c'est la fin. les Incas ont développé un peu leur culture sur pratiquement l'ensemble du territoire actuel péruvien. Et j'ai visité une ville qui s'appelle Cusco. Et Cusco, c'est une ville qui est une plaque tournante de tous les voyageurs du Pérou, puisque c'est à 3 heures du fameux Machu Picchu, et qui est qui est par certains considéré comme une des 7 merveilles du monde, et qui est un site inca qui est particulièrement bien conservé. Et pourquoi il était bien conservé ? Puisqu'en fait, c'était une cité royale dans laquelle il n'y avait qu'une élite qui habitait. Alors il y avait l'Inca, en fait l'Inca ça veut dire l'empereur. Il y avait toute une élite scientifique, et c'est là notamment qu'on trouve le Temple du Soleil, qui a inspiré le fameux titre de Tintin. Et ils avaient pour religion le dieu Soleil, et ce qui est très impressionnant, c'est de voir en fait comment le Soleil guidait un peu la vie dans la cité. Et notamment, il y a un phénomène assez particulier qui est que tout est fait en pierre. Hein, et au niveau des fenêtres, le jour du solstice d'été, les fenêtres qui sont de part et d'autre d'une pièce, en fait, sont totalement alignées au niveau de leurs ombres. Et moi, j'ai eu l'occasion de voir le Machu Picchu le 21 juin. Alors, on était à 3 jours du solstice d'été. Et ce qui est intéressant... Ce qui avait été conseillé par le guide, c'était de monter pour voir le lever du soleil. Et effectivement, au lever du soleil, on a un alignement quasiment parfait des ombres des fenêtres sur les fenêtres de derrière. Quasiment parfait, puisque justement, on était à 3 jours du vrai solstice d'été. Et c'est une cité qui a particulièrement été bien conservée, puisqu'en fait, à l'époque de la colonisation espagnole, c'était une noblesse en fait, qui a fui. Et c'est une ville qui n'a jamais été prise ni pillée par les Espagnols. Et elle a un peu végété comme ça pendant plusieurs siècles, avant qu'il y ait des archéologues qui s'intéressent de nouveau à elle. Voilà. il nous reste combien de temps là ? Il nous reste 7 minutes. Alors on va pouvoir parler, après avoir parlé un peu des plantes sacrées, on va aussi parler des plantes utiles, des fruits, des légumes qu'on trouve en Amérique et en Amérique du Sud notamment, et notamment de plein de plantes qui sont devenues communes maintenant en Europe, mais qui ont une origine sud-américaine. Alors la première déjà, c'est la tomate. Le mot tomate, il vient de l'aztèque, tomatl. Je sais pas si mon accent aztèque est bon, tu pourras confirmer, Pierre. Et alors, longtemps, les Européens ont cru que c'était une plante purement ornementale, puisqu'elle fait partie de la famille des solanacées, qui comporte beaucoup de plantes toxiques. Ils l'ont longtemps conservée comme plante d'ornement. Les avocats, c'est une merveille en Amérique du Sud. Maintenant, je ne peux plus en manger quand je suis en Europe. Il y a dans les marchés, on peut trouver des avocats de toutes sortes. Ça veut dire qu'il y a même juste des marchands d'avocats. Et ils ont 6 variétés d'avocats et qui ont un goût et une consistance qui est absolument géniale. Le maïs, pareil. Le maïs, nous, on pense que c'est juste un petit truc jaune. Là, il y a des maïs de toutes les couleurs, qui a plein d'applications, plein de recettes différentes. Par exemple, il y a un maïs rouge qui sert à faire une boisson, qui a un peu le goût de grenadine. Bon, il y a les piments, les papayes. Il y a évidemment le cacao aussi, qui nous vient d'Amérique du Sud. D'ailleurs, le mot cacao, cacahuatl, chocolat, tout ça, c'est des mots qui sont aztèques. La pomme de terre aussi. Et la cacahuète. Et pour finir, il y a un tubercule que je vous invite à connaître, qui commence à faire un peu son apparition dans les magasins bio, c'est l'Oca.
Je croyais que tu parlais du topinambour.
Non, le topinambour, c'est d'origine européenne, si je ne fais pas de bêtises, mais l'Oca. Et l'Oca est vraiment très très bon. Et voilà, j'invite les personnes à le découvrir. Par quoi est-ce qu'on finit ?
Eh ben, on peut quand même dire que, comme ton voyage en Amérique du Sud était un peu plus long que ça, que peut-être le mois prochain dans Radio Sterni, donc dans 4 semaines, prenez date, il y aura peut-être la suite qu'on va enregistrer un petit peu plus tard, et donc vous pourrez découvrir quoi comme pays ?
Alors, le Brésil, Équateur, Colombie un peu, voilà. Et ce que je propose, puisque j'ai parlé de Cusco, c'est de présenter un enregistrement de la fête du soleil, qui est une ancienne fête inca qui avait été interdite sous les Espagnols.
Et voilà. Ben, on s'écoute ça et puis on dit au revoir après.
Ok, très bien.
Alors, voilà, c'était le dernier morceau pour aujourd'hui, qui était un enregistrement que Seb a fait. Non, que Seb a pris, mais que Seb a fait en vrai aussi.
Oui, et alors, ça vient de la fête du soleil, qui est célébrée le jour du solstice d'été à Cusco. Et c'est un défilé tout en couleurs, avec des déguisements, des masques, des habits qu'on voit assez peu. Et voilà, et je voulais terminer comme ça sur une touche colorée, puisqu'on a un peu parlé des malheurs de l'Amérique du Sud, mais il faut aussi parler de tout ce qui est bien et les défilés notamment.
Et voilà, et pour la suite, ce sera sur Radio Sterni dans 4 semaines, et on laisse la place à Frequenz Consum, qui va nous reprendre dans 4 secondes.